Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Il est 6h38, bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus. À la une de l'économie ce matin, la réforme des retraites. Donc après 2 ans et demi de concertation et 7 semaines de grève, le projet de loi est donc présenté ce matin au Conseil des ministres, porté par l'ancien député La République En Marche, Laurent Pietraszewski. Le texte se décompose en 2 volets. Le premier dit ordinaire, c'est le plus volumineux, 141 pages. Il jette les bases, ce premier volet du système universel, une promesse de campagne du président. Le second volet, dit organique, lui, ne fait que 9 pages et vise à instaurer une règle d'or qui doit imposer au futur régime d'être à l'équilibre d'ici 2027 et ensuite d'y rester. Passage en revue des principaux points du texte avec Émilie Vallès.
Fini les trimestres, on comptera désormais en points, des points que vous cumulerez tout au long de votre carrière dès la première heure de travail effectuée. Vos points seront ensuite convertis en pension au moment de votre retraite. Toute la question, évidemment, c'est de savoir combien vaudra un point. Sa valeur sera en fait déterminée chaque année par les partenaires sociaux et elle ne pourra pas baisser. C'est une règle d'or promise par le gouvernement. Vos pensions ne seront donc plus calculées, vous l'avez compris, sur vos 6 derniers mois de salaire si vous êtes fonctionnaire ou sur vos 25 meilleures années pour le privé. Si vous êtes maman, vous aurez une majoration de 5% de vos points par enfant, 2% en plus dès le 3e. Et pour les plus fragiles, une pension minimum sera fixée à 1000 euros dès 2022. Voilà pour les grands principes. Maintenant, si vous êtes né avant 1975, vous n'êtes pas concerné par cette réforme et donc pour vous, rien ne change.
Alors reste la question pour la génération, les générations après 75, Émilie, de l'âge de départ et c'est étroitement lié à la question financière.
L'âge pivot a certes été supprimé dès 2022, mais un âge d'équilibre est bel et bien inscrit dans le projet de loi avec un système de bonus-malus qui s'appliquera à partir de 2037. En clair, si vous partez avant cet âge de taux plein, vous serez pénalisé financièrement. Alors cet âge sera défini par les partenaires sociaux avec l'idée d'inciter les Français à travailler plus longtemps pour assurer la pérennité financière du système. Certaines professions, en revanche, pourront continuer à partir plus tôt comme les policiers, les militaires, les agents pénitentiaires. Les régimes spéciaux, eux, vont perdre progressivement ce droit au fil des années, mais les spécificités seront prises en compte, les carrières longues notamment, ou la pénibilité de certains postes. Mais de quelle manière? C'est justement tout l'enjeu des discussions en cours avec les partenaires sociaux.
Émilie Vallès, alors le projet de loi sera accompagné d'une étude d'impact conséquente à près d'un millier de pages, dit-on. Et l'addition du coût des mesures et des nouveaux droits prévus dans le texte devrait se chiffrer en dizaines de milliards d'euros pour les finances publiques. À elles seules, les revalorisations salariales promises aux enseignants représenteront un chèque de 70 milliards d'euros sur 15 ans. Et puis, il y a évidemment la question de l'équilibre financier du régime instauré par cette fameuse règle d'or. Dans La Croix ce matin, Édouard Philippe annonce que la conférence de financement réunissant les partenaires sociaux sera lancée jeudi prochain dans la rue. 7e journée de mobilisation ce vendredi à l'appel des syndicats qui réclament le retrait de la réforme. Le trafic devrait être perturbé à la SNCF et la RATP, mais ce pourrait être la dernière journée d'action avant une pause. L'intersyndicale se réunit pour en débattre ce matin à 8h. La grève qui fait les affaires des derniers arrivés dans le monde des transports depuis début janvier. Flixbus constate ainsi une hausse de 25% de ses réservations par rapport à la même période l'an dernier. Blablacar, de son côté, revendique 6 millions de personnes transportées depuis le début de la grève, le 5 décembre, et ça continue de progresser. Écoutez, Nicolas Brusson, c'est le PDG et cofondateur de Blablacar.
Le plus gros changement de comportement qu'on a vu, c'est autour du covoiturage domicile-travail. Là, on a vu l'activité vraiment exploser. On a fait des fois 10 en moyenne. On a vu des journées où on faisait fois 20 en termes d'inscription. Et là, ce qu'on voit en ce moment, ce sont les mêmes volumes. Donc on voit qu'en fait, ça reste principalement parce que de nombreux gens ont découvert pour la première fois ce nouveau mode de transport. Et pour beaucoup d'entre eux, n'étaient pas forcément des gens qui utilisaient les transports en commun. Donc c'était beaucoup de conducteurs et conductrices qui utilisaient leur voiture, qui ont partagé leur voiture avec d'autres automobilistes et donc qui continuent à utiliser ce nouveau service.
Le PDG cofondateur de Blablacar, Nicolas Brusson.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h43, c'est lié au sujet des retraites. Le gouvernement optimiste sur les débuts de son nouveau produit d'épargne retraite. Selon les assureurs, près de 84 000 PER ont été souscrits entre son lancement le 1er octobre et le 31 décembre pour un encours déjà qui frise le demi-milliard d'euros. Le produit profite d'une belle carotte fiscale. Toutes les sommes investies sont déductibles du revenu imposable. On peut aussi y transférer son assurance vie et choisir au moment notamment de liquider son PER entre le capital et la rente. À Francfort, la BCE, la Banque Centrale Européenne, maintient le statu quo sur les taux d'intérêt et son programme de rachat d'actifs. Pas vraiment une surprise, cette décision était largement anticipée. En revanche, pour sa première réunion de politique monétaire de l'année, la BCE était surtout attendue sur le lancement de sa revue stratégique. Christine Lagarde, sa présidente, a ainsi annoncé un vaste chantier de réflexion et d'évaluation de son action et de ses outils. Écoutez Frédéric Ducrozet, il est stratégiste chez Pictet Wealth Management.
C'est vraiment nouveau, c'est une bonne chose. La revue stratégique de la BCE se veut relativement ambitieuse. Elle va vraiment se focaliser sur l'inflation, ses mesures et sa cible et ses outils, mais aussi sur un certain nombre d'autres considérations, comme le dit Christine Lagarde, l'environnement bien sûr, les effets secondaires peut-être de certaines mesures, voire même les inégalités, donc des questions sociétales. Et c'est la raison aussi pour laquelle la BCE veut inclure un panel le plus large possible de participants, y compris de la société civile.
Alors vous vous rappelez, en octobre, lors de son audition au Parlement, Christine Lagarde avait promis de simplifier, de moderniser la communication de la Banque Centrale en direction des citoyens. Pour l'anecdote, elle portait hier au revers de sa veste une broche en forme de chouette, le symbole de sagesse qu'elle s'est choisie, ni colombe ni faucon. La taxe GAFA à Paris et Washington ont trouvé un accord hier. La trêve évoquée dimanche entre Donald Trump et Emmanuel Macron a été officialisée. Paris suspend donc la collecte de la taxe cette année. On attend maintenant le communiqué officiel des États-Unis pour dire qu'ils suspendent leur menace de taxer à 100% champagne, fromage ou autres produits cosmétiques français. À l'OCDE, les négociations vont reprendre dès la semaine prochaine sur des bases agréées hier par Bruno Le Maire et Steven Mnuchin. Les États-Unis ont ainsi retiré leur proposition qui visait à faire de la future taxe numérique internationale une simple option. Paix armée donc entre Paris et Washington. Otage de la situation, la filière viticole, en particulier les Bordeaux. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Le vignoble bordelais qui appelle l'État à l'aide. En effet, la taxe américaine qui est liée au conflit Airbus-Boeing a fait s'effondrer les ventes de Bordeaux aux États-Unis.
Voilà, cette taxe de 25% frappe les importations françaises de vins non pétillants de moins de 14 degrés d'alcool. Cela s'est traduit en novembre par une baisse de 46% du chiffre d'affaires aux États-Unis. La profession s'attend à un mois de décembre et de janvier du même tonneau. Elle tient à mobiliser tout le monde pour relancer la filière car le problème est plus profond. Depuis 2 ans, les ventes de Bordeaux en France comme à l'étranger sont orientés à la baisse. Le gel de 2017 a fait perdre des parts de marché. La hausse des prix a été mal contrôlée. À cela, il faut ajouter la loi Egalim qui a encadré les promotions dans la distribution, mais aussi un marché chinois déprimé et les incertitudes liées au Brexit. Les Bordeaux souffrent désormais d'une consommation moins tournée vers les vins rouges. Par ailleurs, les appellations sont trop nombreuses. Elles rendent l'offre peu lisible. Enfin, le bio a trop longtemps été délaissé, tant et si bien qu'aujourd'hui, le Bordeaux souffre d'une image de vin cher et qui n'a pas su évoluer.
Merci Eric Mauban. Les vins de Bordeaux en crise, on en reparlera à 7h15 avec le maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Il sera l'invité de l'économie, la bourse.
La bourse avec placementdirect.fr. L'assurance vie en ligne à frais réduits.
Le CAC 40 cède encore du terrain, moins 0,65% à la clôture hier soir. L'indice repasse sous la barre des 6000 points, 5971. On reste dans des amplitudes de baisse modérées. Cependant, pas de panique, mais de l'inquiétude sur les développements en Chine de l'alerte sanitaire entourant le coronavirus. On va en reparler dans un instant. La crise qui fait pression quand même sur certains secteurs, notamment le luxe, LVMH, moins 2,72, Kering, moins 3,17. Les transports également. Air France KLM recule de 2,47 à Aéroport de Paris, moins 3,05. Forte baisse également pour Renault, 5% de baisse. La banque américaine Citi recommande le titre à la vente. À Wall Street, les trois indices en ordre dispersé. Le Dow Jones notamment, moins 0,09%, 29 160 points. Tout de suite, les risques de contamination du virus chinois sur l'économie. On en parle avec Didier Saint-Georges dans un instant.